Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres. Je voudrais. Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille, alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée du tumulte enivrant que souffle le combat et du rude frisson qui donne à qui se bat le chac mâle et clair de l'épée. Je voudrais que ce soit le soir. Le jour mourant donne à celui qui part un regret moins pesant et lui fait un linceul de voile. Le soir. Avec la nuit, la paix viendra des cieux et j'aurais en mourant dans le cœur et les yeux le calme apaisant des étoiles. J'aimerais que ce soit sans mourir sans regret, un soir où je verrai la gloire à mon chevet, me montrer la patrie en fête, un soir où je pourrais écraser sous l'effort, sentir passer avec le frisson de la mort son baiser brûlant sur ma tête. Et c'est de Charles Lungal.
Alors, bonjour,
mais bonjour,
bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de nous lire un poème peu connu, « Je voudrais ». Bon. Et l'auteur est un nommé, vous avez dit
Charles de Lungal.
Charles de Lungal. Nous ne savons pas à quel âge peut-être l'auteur a écrit ce poème.
Il a 18 ans, je
18
crois.
18 ans. Pour 18 ans, c'est pas mal.
C'est
pas
très
mal.
Bien.
Le jeune Charles de Gaulle, déjà, puisque c'est lui.
C'est lui dont il s'agit, oui.
Puisque c'est lui, donc à l'âge de 18 ans, il avait eu le temps, pendant ses humanités, d'écrire, de réfléchir. Je voudrais. Il parle de quoi dans ce... Il parle de bataille, de guerre.
Mais bien non, évidemment. Mais il déjà, parle... il n'était pas dans les batailles et déjà, il en parlait.
Déjà, il en parlait, il en parlait, il en parlait. Et même petit, il faut rappeler qu'il est né le 22 novembre 1890 à Lille, 9 rue Princesse. La famille habitait Paris, mais c'était l'époque pour les accouchements d'aller, de revenir au lieu d'où...
Familial, voilà.
Familial, voilà. Donc, 11 novembre 1918, on s'arrêtera tout à l'heure à cette date concernant Charles de Gaulle. Après, c'est un autre chapitre que l'on connaît peut-être mieux.
Un peu plus, oui.
Un peu plus, l'homme de 40, et puis ensuite l'histoire de la France, etc. Et nous avons pensé qu'il était bon de voir un peu...
Sa jeunesse.
Voilà, sa jeunesse, son enfance, son adolescence, c'est son parcours scolaire, comme on dit maintenant, puisque c'est le baccalauréat bientôt, en ce moment.
C'est fini, le baccalauréat, on attend le résultat.
Voilà, on attend les résultats. Il avait passé un bac et puis il avait passé deux bacs, puisqu'à l'époque, il y avait la première et deuxième partie. Alors donc, 22 novembre 1890, et puis quand même, nous pensons à l'histoire, à savoir 1970, et c'est bien le 9 novembre qu'il décède brutalement en faisant une partie de cartes, en faisant une réussite.
C'était ses réussites qu'il faisait.
En faisant une réussite, quand on va à Colombey, on voit la table, le bureau... le fauteuil sur lequel il était assis et la table sur laquelle il s'effondra brutalement à la suite d'une rupture d'anévrisme.
Voilà.
Mais avant, quelle vie, aurait dit Malraux. Vous savez que son ami Malraux disait « Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions ». Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions.
Mais c'est un peu vrai dans le cas de Gaulle.
Voilà, c'est pour ça que j'ai noté, puis c'est du Malraux, ils étaient très liés, comme on dit aujourd'hui. Voilà, les rêves, et puis les hommes, et puis les actions. Car l'action, c'était chez lui important. La communion, à tous les sens du terme, par l'action. Alors... Qu'est-ce que vous voulez savoir?
J'aimerais connaître un petit peu son enfance.
Alors, l'enfance, c'est une famille. Les De Gaulle, c'est une famille bourgeoise, on va dire.
Oui, mais ils sont presque monarchiques, un peu.
Même aristocratiques.
Oui, voilà.
Les De Gaulle, ouais.
De Gaulle, voilà.
Oui. Gaulle, c'est un vieux mot. Wall, en anglais, le rempart, le mur. De Gaulle. Voilà, il avait même un parent très lointain à Cuiserie, d'ailleurs, pas très loin d'ici.
Oui, c'est à côté.
Et chaque année, il faisait donner, de même que son fils, l'amiral, faisait donner une messe pour le repos de l'âme de la famille et des familles de Gaulle. C'est peu connu, mais ça mérite d'être.
Parce que ça, je ne le connaissais pas du tout.
Oui, d'être souligné. Bien Jean sûr. Lacouture, dans sa biographie.
On parle.
Jean Lacouture, le grand biographe. Donc c'est une famille, vous avez dit, monarchique, traditionnelle, mm-hmm. traditionnaliste, si vous voulez, conservatrice, on va dire tous ces mots-là.
Oui, hein. Oui.
Voilà, on réforme pour conserver.
C'est ça.
C'est voilà. ça. Mm-hmm. Voilà, dans la connotation un peu prussienne, hein. Réformer pour conserver ce qu'on pense qui est bon, parce que c'est pas facile. Donc c'est une famille, il y aura une famille nombreuse, il y a cinq enfants.
Oui.
À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants.
Mm-hmm.
Il y avait donc Xavier, ensuite Marie-Agnès, Charles, après, qui est au milieu, et puis il y a Jacques et Pierre.
Pierre qui meurt.
Pierre, c'est Jacques qui meurt d'une encéphalite.
Il était jeune, quoi.
D'assez jeune, oui.
Mm-hmm.
Marie-Agnès, qui épousera un homme du Nord, comme on dit. Et les autres frères, les deux autres, pas de Gaulle, ils feront une belle carrière. Ce sont des ingénieurs des mines.
Hein. Voilà.
Mm-hmm. Des types qui travaillent, hein, qui bossent, comme on dit, de Gaulle aussi. Dans toute la famille, on travaillait beaucoup, le travail intellectuel.
Oui, puis le père, il était quand même scientifique, quand même.
Henri de Gaulle avait fait des études scientifiques,
quand même.
Oui, il avait été admis à Polytechnique.
C'est ça, voilà.
Polytechnique, c'était pas rien, c'est toujours pas rien. Mais il a fait beaucoup d'études mathématiques. Mais avec la guerre de 70, il a été obligé d'arrêter ses études. Il a participé à cette guerre qui a beaucoup impressionné le jeune Charles.
Il a été très imprégné.
Le père avait fait la guerre, ça a été une défaite. Ça a été un armistice, mais de Gaulle le disait, le père disait, c'était en réalité une capitulation. En janvier 1871, il faut dire qu'en 70, en août et septembre 70, on a perdu en quelques heures l'Alsace et une partie de la Lorraine. Parce qu'on avait été négligent, on va dire. On avait été héroïque, parce que la troupe a fait ce qu'elle a pu. On a eu beaucoup de morts, de blessés, par maladie aussi, et de prisonniers.
Mais quelle folie de faire cette guerre!
Ah ben oui, ça, vous savez, oui. Tout à fait. Et ça nous a coûté, et on le paye encore maintenant, si on ne s'en rend pas bien compte. Donc le père avait raconté sa guerre de 70, et le jeune, les enfants, on va dire, puisque le dimanche on allait dans Paris, on revenait à Paris, car ce sont des Parisiens aussi, mais de Lille, Parisiens de Lille, si on peut dire, on allait voir les monuments, et puis le père, et c'était très impressionnant, et Charles était très réceptif.
Il était très à l'écoute, très réceptif
de cette souffrance que le père exprimait de voir deux provinces qui avaient été arrachées en peu de temps.
Mmh.
On avait été un peu négligents, c'était pas préparé. On était cool, c'est ça un peu.
Ah ben, toujours
on,
cool.
C'était un peu ça, on était cool. Puis après on coule, quoi.
Oui.
Et voilà.
Curieusement, le père s'est battu, les enfants se sont battus avec les mêmes ennemis.
Oui, eh ben oui,
c'est ça. C'est curieux.
Ça a déclenché. Mmh. Et oui, par trois fois, on a eu les mêmes en face.
Mais oui.
Alors qu'en réalité, ce sont deux peuples qui se complètent admirablement.
Et qui s'entendent en dehors des guerres.
On s'entend très bien.
C'est
on
ça.
Se complète. On
oui,
se complète. Oui. On est continentaux.
Oui, c'est ça.
Si
oui.
on pense à d'autres peuples, ou disons la Grande-Bretagne,
oui.
ils sont sur un bateau. C'est les insulaires.
Oui, oui, oui.
Les Germains, hein, avec leurs qualités et leurs défauts, et les Français avec leurs qualités et leurs défauts, on s'entend beaucoup mieux. On s'entend beaucoup mieux. La différence, c'est que les Allemands sont toujours plus nombreux que nous.
Oui, c'est un pays qui
très prolifique.
Vrai, il y a beaucoup
d'habitants. De Gaulle disait l'Allemagne est toujours prolifique, exportatrice et conquérante.
Mmh.
Prolifique, ben oui, un Français pour quatre Allemands, eh oui, exportatrice, le génie du commerce, regardez maintenant tous les machins, ça c'est allemand, les écouteurs là.
Tout est allemand.
Eh oui, c'est très bien, c'est solide. Je n'ai pas dit que ce que les Français faisaient n'était pas solide. Mais enfin, voilà, bon, et puis conquérante, Ça, c'est vrai un peu, quoi. On l'a été une autre fois. On l'est peut-être moins. Quoique, bon. Donc, le jeune Charles va écouter son père et qui va entrer dans l'enseignement. Et comme c'était une famille très, très pieuse, on va dire, très religieuse.
Oui, son père était préfet d'enseignement, c'est
ça? Préfet d'enseignement, oui, s'occupait des études chez les pères jésuites.
C'est ça.
C'est toute une époque.
Voilà, donc il a été élevé par les jésuites.
Il est chez les jésuites.
C'est ça.
Qui sont de très bons pédagogues.
Mais voilà.
D'excellents pédagogues et qui savent apprendre et puis faire apprendre, étudier. Et c'est toute une époque. On n'est pas en 2019. On est 1890, 1900, bientôt le début du siècle, c'est une époque tout à fait différente par rapport à celle que nous vivons maintenant. Et donc, il va se retrouver chez les jésuites, mais au début, le petit Charles va être inscrit donc, à une école de Paris. Je cite, car c'est important d'avoir le petit texte, l'intitulé « École primaire des frères des écoles chrétiennes ». À l'école Saint-Thomas d'Aquin, 44 rue de Grenelle, Paris. Voilà. D'octobre 96 à juin 1900. Là, il va commencer à l'école Saint-Thomas d'Aquin, qui est aussi quelqu'un d'important au point de vue religieux.
Religion, oui.
Et ensuite, ce sera le collège de l'Immaculée Conception, rue de Vaugirard, une grande rue à Paris, qui est vraiment très belle, de 1900 à 1907. Et comme il est doué, quand il veut, le petit Charles, il travaille quand il veut. Eh bien, il rentre, pas en sixième, il saute une classe, comme ça se faisait, il entre en cinquième directement.
Directement cinquième.
Parce qu'à la maison, on bosse. Le dimanche, ça ne devait pas être folichon. Il fallait quand même travailler. Et le père, il leur disait, c'est pour vous.
Oui.
Je n'ai pas de commerce à vous vendre, à vous léguer. Il faut que vous fassiez votre situation vous-même.
C'est ça.
Ben oui. Alors, il entre en cinquième, comme
externe.
Il leur
donne le goût de l'effort, quand même.
Le goût de l'effort, le travail, la mère aussi. Qu'est-ce qu'il disait de sa mère et de son père aussi?
Mais je ne sais pas. Enfin, je sais que son père, à un moment, il envoie un petit mot à son papa.
Oui.
Il lui dit... Attendez, je suis en train de chercher.
Voilà.
C'est d'abord, mon cher papa chéri, l'exemple jamais oublié que vous avez donné d'avance à vos fils au début de notre vie... en combattant avec l'honneur et même ennemis qu'ils combattent aujourd'hui à leur tour. C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui.
Ce sont encore les précieuses leçons que vous m'avez données tout le long de mon enfance à ce propos et à propos de tout ce qui s'y rapporte.
Voilà, l'exprime. Et cette lettre est datée de quelle époque? C'est important la date.
Du 23 avril 1918.
1918. Avril 18, c'est important, ça annonce la suite. Il est prisonnier en Allemagne.
C'est à ce moment-là, oui.
Donc c'est important, derrière les barreaux, il se remémore et il est reconnaissant vis-à-vis de son père. Le goût de l'effort, comme vous avez dit, le goût du travail. Hein, comme De Gaulle, le secret, la genufiche, le secret de la réussite de De Gaulle, c'est un travail incessant et approfondi. Incessant et approfondi, en cultivant une mémoire prodigieuse. Il apprenait par cœur ses discours.
Ça, c'est bien.
En français, en allemand. Et il y avait 4 ou 5 pages. Il apprend et réapprend. Et ça, il apprend par cœur ses dossiers, les dossiers de ses hommes quand il était jeune officier. Donc la mémoire,
on travaille, la mémoire.
Toujours cultiver la mémoire. Certains ont dit que ça rendait chèvre. Pourquoi pas? Moi, je veux
non,
bien.
Non.
Mais enfin, par expérience, si on n'avait pas de mémoire, il faut quand même... bon, il y a les ordinateurs qui font le travail à notre page.
C'est ça le problème.
On voit les résultats maintenant. On n'a plus de mémoire. Alors que là, heureusement qu'il s'est servi de son premier ordinateur, qui était sa mémoire.
C'est ça.
Voilà. Et alors, on travaille. Et puis après... il y a des lois en France anticléricales, donc les jésuites vont être, les autres aussi, vont être mal à point. Donc, quand on voit tout cela, le père va quitter la rue de Vaugirard et va fonder sa propre école, l'école de Fontane, toujours à Paris. Et il y aura du monde, parce qu'il est connu, on bûche beaucoup.
Connu et reconnu.
Connu, reconnu, puis c'est une personnalité.
C'est ça, oui.
On l'admire, il inspire confiance, on ne le craint pas, non, on le respecte beaucoup. Et puis derrière, il y a la mère aussi, la mère très présente à l'éducation des enfants, et qui appuie vraiment, et qui est tout à fait d'accord avec la pensée, la philosophie de son diable de Marie, Henri de Gaulle, qui était un tribe déjà très grands, un peu voûtés avec l'âge. Ben oui, c'est normal. C'est tous des grands personnages. De Gaulle faisait 1m96.
Il était grand, très
grand. Pour l'époque, oui, c'était rarissime.
Et même encore, c'est quand
maintenant,
même...
Oui, maintenant, on trouve quand même des grands.
C'est vrai, ouais, les grands. Enfants sont beaucoup plus grands.
Voilà, c'est vrai. Oui, ils mangent davantage de yaourt, peut-être. mais à l'époque, ça fait, oui, à Saint-Cyr, c'était un des plus grands.
C'est ça.
Donc, il était homme de base, comme on disait, homme de base. Et alors, le De Gaulle va envoyer le père De Gaulle, comme on disait, le PDG, le père De Gaulle. Eh bien oui, le PDG, il envoie le Charles et puis Jacques. Ils vont à un collège jésuite qui s'est installé en Belgique. Eh bien oui, puisqu'en France, ça ne marche pas bien. Alors, ce collège se trouve tout près de la frontière belge. Et là, il y a du beau monde. Tous ceux qui étaient là-bas, eh ben, ils se retrouvent, il faut pouvoir le faire. C'est une séparation aussi, on quitte Paris, on quitte les parents. Et De Gaulle en a souffert un peu de cette séparation avec la famille. Derrière son regard apparemment lisse et indifférent, c'était quelqu'un qui réfléchissait
beaucoup. De tendre,
beaucoup,
malgré tout de tendre.
Et très sensible. Mm-hmm. C'est souvent ça un peu, il ne faut pas se fier aux apparences. Mm-hmm. Et 1907-1908... Voilà, il rédige même une revue, la revue du collège. Il est arbitre au foot.
Il veut on n'imagine pas jouer au foot.
Il est arbitre au foot. Et puis, à la messe, tous les matins, il était cérémonaire, c'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait, il avait la haute main sur les enfants de cœur. Donc
ça.
Déjà, on veut déjà diriger, c'est le chef déjà. Déjà le chef, et il s'impose comme arbitre au foot, et puis à l'église, lors du service. Et donc, il le voit là avec son éducation. C'est un enfant, quand on le voit, quand on voit les photos, quand on revoit comment d'autres témoins qui l'ont connu le qualifient. Alors, il l'appelait le petit Charles. C'était drôle parce que, bon, le petit Charles, mais quand il a 10 ans à peu près, c'est un garçon qui est batailleur.
Ah.
On dirait pas, qui est turbulent, il est taquin. Il est coléreux, il pique des colères terribles.
Mais il a gardé ce caractère toute sa vie.
Il est paresseux.
Ah, ça, j'ignorais qu'il était paresseux.
Il travaille quand ça lui plaît. Voilà, j'en ai connu d'autres. impérieux. Il est pénible, disait sa mère. Il est pénible. Charles, il est très autoritaire, un peu comme Saint-Exupéry, qui voulait toujours qu'on l'obéisse sur le champ.
C'est ça.
Au doigt et à l'œil. Il est difficile, mais gentil garçon, aimant ses parents. Reconnaissant, on l'a vu, à son père. Mm-hmm. Donc, coléreux, paresseux, arbitre au foot, on l'a dit. Et c'est un enfant batailleur. Il faut toujours se chamailler, quoi, voilà. Mais on s'entend
c'est
bien.
C'est pour gagner, surtout, qu'il se chamaille.
Ah oui, c'est le chef. Mm-hmm. Hein. Il s'entend bien sûr, avec sa sœur et les trois frères. Mais c'était l'époque...
Une bonne ambiance familiale.
Et donc, il va faire de bonnes études, pensant peut-être devenir ingénieur comme ses frères.
Mmh. Mais il entre à Saint-Cyr.
Mais 1905, il y a eu l'affaire Dreyfus en France.
Oui,
la loi de 1905, oui, séparation de l'Église et de l'État.
Mmh.
Comme il fait de l'allemand depuis la 5e, il a été inscrit en 5e. À l'époque, c'était ça. Je dis bien à l'époque, 5e, c'était latin, grec et allemand. L'anglais, on voyait plus tard, parce que l'allemand, c'était une langue peut-être difficile, si on ne fait rien, bien entendu.
Oui, mais si on fait du latin, ça va très bien avec.
Ben voilà, c'est vous qui l'avez dit, tout à fait d'accord. Voilà, les structures grammaticales, c'est les mêmes.
C'est ça.
Et puis le latin, ça aide aussi pour notre langue française.
Même pour le français, c'est très bon pour le français.
Pour le français, pour comprendre l'étymologie des mots, bref. Et donc, on va l'envoyer en Allemagne... passer quelques semaines près de à l'est de l'Alsace. Mmh. Il est reçu par un brave curé allemand qui est tout à fait gentil et vit au presbytère. Il assiste à la messe pour écouter la langue et tout ça. Il a son carnet, il observe, il prend plein de notes. Hein, il est né en 1890 et c'est 1905. Et dans la presse, il s'intéresse déjà, comme il s'en sort fort bien d'allemand, il s'intéresse à voir les titres des journaux allemands, les titres.
Hein. Il peut les lire.
Voilà, il peut déjà se faire une idée et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui en Europe commence à apparaître. Il se rend compte que le monde commence un peu à chauffer. Il s'en rend compte très vite.
Ça se bouscule un peu, oui.
Et alors, l'idée de devenir ingénieur s'éloigne pour laisser la place à celle celle de devenir défenseur du pays.
Militaire.
Donc militaire, donc soldat. Donc il faudra être soldat, mais officier et tout ça.
Bien
donc
sûr.
À partir de ce moment-là, il va travailler beaucoup plus. On a vu qu'il était
paresseux. Qu'il avait trouvé sa voie. Il avait trouvé sa voie.
Et son père l'encourage. Son père l'encourage, les parents aussi. On sait très bien qu'il peut y avoir une guerre. Il peut être tué. Et ben oui. Il peut être blessé. Et ben oui. Et ben il sera ni l'un ni l'autre. Il sera fait prisonnier. Et ça sera, comme il disait en 1945, la première guerre mondiale, il a dit en 1945.
Pour lui, c'est une blessure.
Et c'est une blessure, la première
incurable,
guerre mondiale.
Incurable, c'est ça.
La première guerre mondiale a laminé mon âme.
C'est vrai.
Là, c'est une césure.
C'est la captivité, il a pas su.
La captivité.
C'était la honte pour lui un peu.
Voilà, voilà. Un officier est peut-être tué et blessé, mais il n'est pas fait prisonnier. Parce qu'il ne peut plus combattre, il ne sert plus à rien. Et moralement,
il sent l'inutilité.
Voilà. Et pendant 32 mois, comme beaucoup d'autres, il a tourné en rond. On verra après comment il a réussi à monter. Donc, il entre à Saint-Cyr, il prépare Saint-Cyr, il entre à Saint-Cyr. Il est 119e sur 221.
C'est pas glorieux.
C'est pas glorieux, mais enfin, il est rentré quand même. Il est entré.
Voilà.
Il n'est pas rentré, il est entré.
C'est vrai. Il est entré
et il sort, 2 ans plus tard, 13e.
Sur 221.
Sur 211.
11 sur 211.
13e.
Quelle progression.
Donc, il a beaucoup travaillé.
Ah ouais.
Il a beaucoup travaillé. Cela lui donne la possibilité de choisir son arme. Et quand on avait été reçu à cette prestigieuse école militaire, avant d'entrer à l'école, on passait un an comme simple soldat.
Oui.
Pour voir un peu ce que c'était.
Mais pour connaître la base.
Pour connaître la base. Mmh. Et donc, il choisit le 33e régiment d'infanterie d'Arras.
Du Nord,
commandé par un certain colonel Pétain.
C'est là qu'ils se sont rencontrés.
Voilà. Et puis ensuite, après cette année de préparation, comme simple troufion, on va dire, simple soldat, voilà, et toutes les corvées, enfin, le bidasse, quoi. En même temps, il observe, il voit. Et puis, comme il aime bien parler, il fait des petites conférences, déjà. Déjà, il a le besoin d'exprimer. C'est quelqu'un qui, par les jésuites, et puis l'éducation à la maison aussi, a été formé à l'histoire de France.
C'est ça.
L'histoire de France, elle en a beaucoup
Son lu. Père aimait beaucoup l'histoire. Hein?
Son père aimait beaucoup l'histoire. Donc, il s'imprègne d'histoire, car si on veut comprendre l'histoire du présent, il faut savoir un peu l'histoire du passé.
Oui.
Ah oui, et pas faire rastable, comme ça arrive parfois de nos jours maintenant, parce qu'après, on s'aperçoit qu'on refait les mêmes bêtises. Et c'est très dommage. Donc, une année comme simple soldat, et puis après, deux ans à Saint-Cyr, qui n'était pas en Bretagne comme à l'époque, comme maintenant à Coëtquidan, qui était au sud de la région parisienne, Saint-Cyr, les Dames de Saint-Cyr. Si on lit sa fiche de sortie, on a la fiche signalétique, c'est très intéressant. Alors la conduite, elle est irréprochable, bien sûr. La tenue, elle est très correcte. L'intelligence, elle est très vive. L'éducation, elle est soignée. Intéressant les termes. Le caractère, il est droit. Attitude, pas altitude, attitude, elle est très belle. Voilà. Le zèle est très soutenu. Tous les mots sont pesés. Hein. Le jeu, voilà. Les professeurs ont... Esprit militaire très développé. Oui, on s'en serait douté. Le physique est sympathique.
Ah.
Qui dit, bon, comme ça. Aptitude à la marche. Ah, ça, c'est très bonne. Oui, parce qu'il faut avoir des bons pieds, des bonnes chaussures. Résistance à la fatigue.
Ah,
grande
résistance.
Pour un très grand, c'est bien. Eh oui. Et il fut une brute pompière. Alors, à Saint-Cyr, une brute pompière,
oui, c'est quoi
ceux qui travaillent comme des brutes, qui bossent. Hein? Parce qu'il y en a qui vont cool. Et là, une brute pompière, c'est celui qui travaille.
D'accord.
Qui suit les cours, qui va au col le samedi, qui font avec son binôme, ils font le jeu question-réponse. Ils s'entraînent aux oraux.
D'accord.
À faire des résumés. Hein, il y en a qui étaient plus tranquilles. De Gaulle, lui, il veut arriver.
Très actif.
Très actif et surtout très travailleur, puisqu'il sort 13e.
Ah, ben oui.
Sur 211, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors qu'il était entré 119e.
Sur...
Et dès la première fois, parce qu'il y en a qui...
Ah oui, donc c'était déjà pas mal.
C'était bien parce qu'il
est sorti
en 1908, eh oui. Et il sort en 1912 et le voilà sous-lieutenant, donc une barrette dorée. Il le revoilà face au colonel Pétain comme sous-lieutenant à Arras, au 33e d'infanterie. Qu'est-ce qu'il disait Pétain ? Pétain disait « Sorti de Saint-Cyr avec le numéro 13 sur 211, s'affirme dès le début comme un officier de réelle valeur, qui donne les plus belles espérances pour l'avenir. » Il ne s'est pas trompé. « Se donne de tout cœur à ses fonctions d'instructeur. » Il aimait transmettre. C'est un pédagogue.
Il a toujours été comme ça.
Comme le père. Mmh. Comme le père. Transmettre. C'est un professeur. A fait une brillante conférence sur les causes du conflit dans la péninsule des Balkans. C'est-à-dire l'Europe centrale
oui,
d'aujourd'hui.
C'est ça, oui.
Ça n'a peut-être pas bien changé.
Non.
Hein? Colonel Pétain, chef de corps.
Ça, donc ils ont eu un bon contact
oui,
rapidement quand
oui,
même
ah
avec
oui,
Pétain.
Ah oui, ça passait bien.
Ouais,
ça,
ouais.
C'est la note du premier semestre 1913. Et la deuxième... Très intelligent, aime son métier avec passion, a parfaitement conduit sa section en manœuvre, digne de tous les éloges. Bon, c'est très bien. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, il va arriver 1914.
La guerre.
Ce qu'il avait d'ailleurs un peu prévu, il l'avait senti venir, on va dire. Il avait senti venir ce drame qui va... Et il sort dans la promotion, 94e promotion, 1909-1912. C'est la promotion de Fès au Maroc, F-E-Z. Mmh. Et le major de promotion, c'est son ami camarade, le futur maréchal Alphonse Join.
Mmh.
Alphonse Join, fils de gendarme, pied noir, et qui commandera plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, le corps expéditionnaire français. Voilà, débarquement et à l'Italie, on remonte l'Italie, nous savons tout ça. Et de Gaulle sera toujours... aux premières loges, très militaire, très dévoué, très consciencieux, commande avec calme et énergie.
Donc c'est comme ça qu'on est efficace d'ailleurs.
Voilà. Mmh. Et le commandant de l'école de finir a été continuellement, en progressant depuis son entrée à l'école, a beaucoup de moyens, de l'énergie, du zèle, de l'enthousiasme, du commandement et de la décision. Ne peut manquer de faire un excellent officier. Bon, voilà. Donc, 1914, on ne va pas refaire l'histoire de la guerre. Ben, il faut savoir qu'il a commencé par avoir une blessure.
C'est ça.
Une blessure.
Parce qu'il a été blessé trois fois, en fait.
Il a été blessé trois fois. Mm-hmm. Le 15 août 1914.
C'est sa première blessure.
À Dinan.
La jambe.
En Belgique, à la jambe, une balle. C'est la catastrophe. Sur le pont, le fameux pont en jambe à la Meuse, mm-hmm. à Dinan. Tout près de là, il y a les brasseries de la bière Leff. Hein, soyons modernes, Aleph, c'est ici que ça se trouve.
Elle est bonne, la bière.
Elle est très bonne, la bière. Mais donc, il est blessé, pas mortellement, mais il a le nerf sciatique paralysé. Mais autour de lui, il perd beaucoup d'hommes.
C'est ça le pire pour lui.
Voilà, il perd beaucoup d'hommes, c'est le baptême du feu. Bon, il va s'en sortir, il va être opéré à Paris, et puis il va être en convalescence à l'hôpital des Jeunettes de Lyon.
Lyon, oui.
À Lyon, vous voyez. Comme peut-être qu'il est passé ici avec le train, à moins qu'il soit passé par Mâcon, plutôt. Voilà. Donc, d'abord, une blessure. Ensuite, après, il reprendra les champs de bataille,
c'est
1915, les tranchées, déjà aussi, l'enfer des tranchées, lieutenant, deuxième blessure, le 10 mars 1915, dans le nord de la France, il est blessé à la main gauche. Là, ça s'infecte. Enfin, ça l'embête un peu. C'est pas grave, mais enfin, il faut qu'il se fasse soigner quand même. Il faut pas être négligent.
Surtout à l'époque,
le
froid.
Parce
que la gangrène venait vite.
La promiscuité. Et oui, beaucoup de blessés sont morts faute de soins à l'époque.
Oui.
On n'avait
mm-hmm.
pas prévu, là
mais
aussi.
Oui.
Le service de santé français a été créé en 1915.
Oui.
Alors en 14, octobre, novembre, décembre, janvier, vous voyez un peu, on a perdu d'innombrables blessés qui auraient pu être sauvés de nos jours, bien sûr aujourd'hui.
Si on rapporte à aujourd'hui, oui.
Voilà. Et puis la guerre qui arrive. Et donc, la guerre va être aussi, sa première guerre mondiale, c'est un laboratoire pour les idées, si on peut dire. Parce que nous connaissons les bouquins qu'il a écrits après.
C'est vrai.
Mais les sujets, la matière de ses livres, de ses quatre grands livres, La discorde chez l'ennemi, 1924, Le fil de l'épée, 1932, Vers l'armée de métier, 1934, et son livre préféré, 1938, La France et son armée. Tout ça, ça a été mûri...
En 1938,
le bouquin est sorti en 1938.
Oui, c'est ça.
Mais
oui.
Tout ça a été mûri il était prisonnier. Quand il était prisonnier, et même un peu avant, quand il a vu la bagarre, et quand il était prisonnier pendant 32 mois, il a eu le temps de cogiter et de penser et de voir ce qui allait se passer. Il était assez prémonitoire.
Il avait quand même l'esprit écrivain, déjà.
On écrivait beaucoup. Et là, voilà un passage relatif à la Grande Guerre. C'est cet extrait de La France et son armée. C'est ce qu'il a vécu un peu. Mm-hmm. Quand l'infanterie progresse, disons, au mois d'août, qui fait un temps merveilleux, il fait beau. Et on sait que l'ennemi, il est par là, mais on ne sait pas trop où. Alors, l'infanterie a quitté la route. Déployée à travers champs en ligne de petites colonnes, elle progresse vers le drame inconnu. La marche d'approche, cette fois, n'est plus une fiction de champ de manœuvre. Là, c'est du sérieux. En silence, la gorge serrée, regardant leur chef qui se force à sourire, les hommes vont anxieux, mais résolus. Soudain, au passage d'une crête, au sortir d'un cheminement, À la lisière d'une forêt, arrivent les premiers chocs, tout d'un coup. Souvent, ce ne sont que shrapnels, des balles, c'est des balles
qui explosaient,
si vous voulez, qui explosaient, venus de loin, éclatant haut, ça éclotait, puis ça retombait.
C'était un peu des fusées éclairantes.
Non. Mais c'était plusieurs plombs qui s'éparpillaient et tout.
D'accord.
Mais ça faisait mal. Alors ça éclate haut, dont l'efficacité médiocre rassure les combattants novices.
Donc ça va. Parce qu'ils les attendent.
Ça va. On continue, mais bientôt le tir se précise. On aligne mieux. Ils ont des fusils à lunettes en face.
Ah voilà pourquoi ils alignent mieux.
Ce sont des tireurs, des Guillaume Tell. Le sol est criblé de balles, de rafales, donc armes automatiques. On voit, non sans stupeur, s'effondrer les premiers cadavres. Eh oui. Les balles sifflent. À présent, rares d'abord et comme hésitantes, puis, par instinct, multipliées sur tel ou tel groupe découvert.
Ah, bien sûr.
En face, ils ont vu. Avec les jumelles, ils les voient. Nous, on progresse comme on peut. Moins brutal que les obus.
Mais je pense qu'on ne se battait pas de la même façon.
Et c'était pas pareil.
C'était
l'équipement
quand même...
était différent.
Eh bien oui.
On avait du retard. Eh bien oui, on ne peut pas tout faire. Eh oui. Moins effrayante du fait qu'elle blesse et tue en silence. Donc à côté de vous, vous avez un camarade qui est touché, comme on voit dans les films, et qui tombe. Hop, et c'est fini. Et on continue d'avancer, nous. Mmh. Les ordres et les habitudes jettent la troupe toujours plus en avant. En avant. Voilà. Et puis on panique. On n'est pas bien... C'est pas les manœuvres, là. Puis il fait chaud. On a le fusil. On ne sait pas trop. On n'y voit rien.
Puis il a peur, quand même.
Oui. Et puis les autres, on ne les voit pas. Ils sont dans les forêts planquées. Mmh. Tout à coup, le feu de l'ennemi devient ajusté, concentré. De seconde en seconde, se renforce la grille des balles et le tonnerre des obus. Ceux qui survivent se couchent. Atterrés pêle-mêle avec les blessés hurlants et les humbles cadavres. On s'abrite derrière les cadavres. Et il n'y a que dalle, il n'y a rien.
Rien pour s'abriter.
Calme affecté d'officiers qui se font tuer debout. Baïonnettes plantées aux fusils pour quelques sections obstinées. Clairons qui sonnent la charge. Rien n'y fait. En un clin d'œil, il apparaît que toute la vertu du monde ne prévaut point contre le feu. Car, avait dit le colonel Pétain, bien avant, « Messieurs, le feu tue !» Mais il ne fallait pas le dire que ça tuait. Il ne fallait pas le dire. Et lui l'a dit, donc il s'est fait mal voir, Pétain. Il s'est fait mal voir, on l'a barré, il n'a jamais été général. Plus tard, il est devenu général entre guillemets, à cause de la guerre.
C'est ça, oui.
Si ça avait été la paix, il finissait comme simple colonel, oui, c'était fini. Oui. L'histoire est curieuse. Et oui. Donc, De Gaulle dans la France et son armée. Voilà tout ce qui nous arrive.
Dans son livre.
Et puis ensuite...
C'est bien décrit, hein.
Ah oui, oui, c'est vu, comme on dit.
C'est vécu, surtout.
Ah oui, c'est vécu, il a vu ses hommes tomber. Lui a été blessé trois fois. Donc la troisième fois, c'était à la bataille de Verdun, 1916. Mm-hmm. Hein, lui, ça a été blessé le 2 mars 1916. Alors c'était terrible parce que c'était un assaut épouvantable, un Français contre 4 Allemands. Sa compagnie, il n'y a plus personne. Lui, il rentre dans la mêlée, il est capitaine. Et puis c'est le corps à corps, là. On ne fait pas de quartier, hein, on ne fait pas de prêchi-prêcha. Ni de philosophie, on n'a pas le temps. Un temps de chien aussi, il fait très froid. Et puis donc, il reçoit un coup de baïonnette dans la cuisse gauche. Douleur intense, et puis les grenades explosent. Une grenade explose à ses côtés, et il tombe étourdi.
Il perd connaissance.
Il perd
oui.
connaissance, mm-hmm. et donc le capitaine De Gaulle n'est pas revenu, donc il est porté manquant, il est tombé.
On croit qu'il est mort même.
Et voilà, il en croit qu'il est mort, on va avertir les parents que le fils est tombé.
C'est disparu.
Et, les fils, et puis le général Pétain, tiens, qui commande l'armée, la deuxième armée sur Verdun, c'est lui qui commande tout ça. Eh bien, citation à l'ordre de l'armée, proposée par le colonel Boudor, c'est le colonel. Mais Pétain, quand il va voir les listes de morts et morts, il va reconnaître le nom.
Non, bien sûr.
Ah, il s'est dit, je me souviens de ce grand-là. Ah, c'est lui qui est mort. Alors, il va faire une citation, une belle citation. Le capitaine De Gaulle, commandant de compagnie réputée pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que sa compagnie, subissant un effroyable bombardement, était décimée et que les ennemis atteignaient sa compagnie de toutes parts, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux, un corps à corps farouche. Seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Point. Est tombé dans la mêlée. Officier hors de pair à tous égards. Voilà. Général Pétain en charge de la défense de Verdun, à la tête de la 2e armée, jeune officiel, 7 mars 1916. C'est le général, c'est pas le maréchal. Le maréchal,
non,
ça sera plus tard.
Plus tard oui.
Voilà. En récompense de tout ce qu'il a fait à la Première Guerre mondiale. Et c'est à Douaumont. C'est oui. à au village de Douaumont. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est tout près de l'Ossuaire, le fameux Ossuaire de Douaumont. Donc voilà ce que... Voilà. Et là, maintenant, eh bien, il va être prisonnier. Il va se réveiller à l'hôpital militaire de Mayence, en Allemagne, soigné par 2 médecins français prisonniers. Et puis là, commence une autre époque. Mais on va écouter un peu de musique pour voilà. changer un petit peu. Avec T for Two, ça nous emmènera un peu au pays du rêve. Thank you. Nous nous retrouvons, après ce succès bien connu, Tea for Two, nous nous retrouvons maintenant, pas aux États-Unis, mais nous sommes...
avec De Gaulle qui est captif.
Avec De Gaulle qui est captif, là, le capitaine De Gaulle portait
mon corps. Il est passé plusieurs camps.
Alors, et... alors on va donner la liste parce que c'est important. Ça a été un prisonnier résolu tout de suite à s'évader, on le comprend bien sûr. Mais c'était quelqu'un d'intraitable et de fier.
Pas arrogant. Donc il pensait qu'il y a une chose, c'est à s'évader en fait.
Il pensait à s'évader et il a essayé 5 fois, puis il s'est fait prendre. Ben, sa grande taille l'a gêné beaucoup et il s'en est pas sorti. Et puis les Allemands l'avaient repéré très tôt. Donc hôpital de Mayence pour se remettre un peu, soigner cette blessure qui lui a permis quand même de marcher, mais enfin, et surtout l'étourdissement dû à la grenade.
Voilà. Avec les gaz, oui.
Alors Mayence, sur les bords du Rhin, pas trop loin de la ville de Bad Kreuznach, que nous connaissons bien, qui à l'époque s'appelait Kreuznach uniquement.
Ah oui, pas Bad. C'était pas Bad.
Non. Après, le voilà dans le camp d'Osnabrück, en Westphalie. Ensuite, il est à l'est, en Silésie, à Neiss, c'est un camp de transit. Ensuite, en Lituanie
oui.
Voilà, à Skoustin. Et puis, c'est quelqu'un déjà qui se fait remarquer par son désir de se faire la belle, on va dire. Donc, il le voilà à Ingolstadt, en Bavière. C'est là qu'il y a un camp énorme. Au moins, il y a peut-être pas, presque 10 000 prisonniers. Là, c'est le camp pour les fortes têtes, ça. Le Fort Neuf. On y met
Il avait été jugé forte tête, bien évidemment,
oui.
Comme donc, il a essayé de s'évader 5 fois.
Voilà,
donc,
au début, c'est un peu moins, mais enfin, on sent déjà une forte personnalité.
Pour lui, c'était comme un devoir de s'évader.
Ah, bah, tout à fait, oui, mais c'est un peu humain.
Mais, enfin bon, dans l'état où il était.
Voilà, et d'ailleurs, il a présidé l'Académie d'évasion.
C'est ça.
Il donnait des conseils, donc il donnait des cours pour s'évader. Les Allemands le savaient. Et il donnait des cours, mais aussi.
Mais il n'a jamais dérogé au code de.
Ah non,
de l'honneur et militaire. Ça, c'était son.
Tout à fait.
Ça, c'est resté ancré en lui,
c'était
ça.
C'était cadré. Mais miné, on va dire. Président de l'Académie d'évasion. Et en même temps, il faisait des conférences. Voilà. Il faisait des conférences et il invitait les officiers allemands en même temps. Les Allemands connaissaient le français généralement. Donc, il savait que c'était un très bon conférencier et il savait en même temps que c'était quelqu'un à surveiller. Donc, d'où il était dans ce camp d'Ingolstadt. Ensuite, il est reparti. Rosenberg en Franconie, c'est pas trop loin. Wülzburg en Bavière. Et vous savez peut-être que depuis le 30 mars 1995, il y a une rue Charles de Gaulle à Wülzburg, en souvenir du passage... du grand Charles. Oui, j'ai vu Charles de Gaulle Strasse, voilà, depuis le 30 mars 1995, en hommage à De Gaulle. Magdebourg aussi, une très belle ville, où il est resté. Il n'a pas trop bougé. Et puis ensuite, arrive le 11 novembre 1918.
Donc ils sont libérés.
Mais on ne va pas rentrer comme ça.
Et non.
En Allemagne, la Révolution.
Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que pendant qu'il était prisonnier, il a beaucoup lu, parce qu'il avait le droit de lire.
Alors, c'est très
ça,
bien.
En fait.
Ça, c'est oui.
Ah oui.
Alors, depuis la convention de La Haye de 1907, les officiers allemands, les officiers français prisonniers en Allemagne avaient certains avantages.
C'est ça.
Ils avaient certains avantages. Donc, ils touchaient une demi-solde. Ils avaient droit à une chambre individuelle. Parfois, il y avait tellement de monde qu'ils étaient 2 ou 3. Enfin, ils avaient une chambre, ça permettait, entre officiers, ils étaient quand même bien, assez bien logés. Ils avaient droit à une nourriture qui était améliorée. C'était important. Ensuite, ils avaient droit à... ils avaient une ordonnance. Ils avaient un soldat français, une ordonnance.
Et ils ne travaillaient pas.
Ils étaient dispensés de tout travail.
C'est ça.
Voilà. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, ils n'avaient rien à faire.
C'est l'inactivité qui leur pesait.
Alors, inactivité, rien à faire. Donc, que faire ? Tourner en rond, commenter les actualités, mais il n'y avait pas la télé, rien du tout. Il y avait la presse. C'était la presse allemande
Bien
qui
sûr.
S'était filtrée, qui disait ce qu'elle voulait. Et alors, il est arrivé que beaucoup d'officiers ont essayé de se sauver, de partir. Mais généralement, certains ont réussi, mais très peu, parce que c'était des forteresses, c'était fait pour...
Très gardé, ben oui.
C'était gardé, c'était des prisons qui ne sont pas comme maintenant, tout était prévu pour ne pas se sauver, avec des murs très hauts à la Vauban, quoi. C'était très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a encaissé parce qu'il a eu une dépression.
Oui,
il a une dépression.
À un moment, il dit « Je suis un homme inutile.
Voilà.
C'est un chagrin qui ne se terminera qu'avec ma vie. »
Voilà, c'est ça. C'est pour lui, il ressent d'abord de l'amertume de la captivité. Et c'est un homme de 26 ans, en pleine forme, mais c'est une incurvation dans son existence. C'est un moment qui ne disparaîtra jamais. Et ce n'était pas prévu dans sa carrière. Bon, il aurait été tué, c'est la guerre.
Mmh.
Blessé, mais fait prisonnier. Enfin, prisonnier, c'est un déshonneur.
C'est déshonneur,
vous avez
oui.
dit, c'est une honte. Voilà. C'est un temps de captivité qui est pour lui une défaite personnelle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et intérieure, il rumine. Et il dira plus tard à sa sœur, c'était un cataclysme. C'est une obligation de cesser le combat, alors que lui est programmé, comme on dit aujourd'hui, pour combattre, agir
jusqu'au bout.
Alors que là, il est privé de combat. Comment? Et c'est impossible. Alors bien sûr, tous sont là, et tout le monde réfléchit la même chose. Les officiers allemands prisonniers chez nous, qu'on retrouvait dans le midi de la France ou ailleurs, c'était la même chose. Frustration, ne servant à rien, et déprimant. Mais lui, quand même, il ressasse cette amertume, le sentiment désespéré d'être rejeté de l'histoire. Il ne participe pas. Voilà. Il est empêché d'y prendre part et la dépression va s'installer. Ça, on ne le sait pas. C'est une dépression qui va être longue.
Oui, parce que c'est un tel cataclysme pour lui que finalement,
oui.
c'est difficile à digérer tout ça.
Oui. Alors, heureusement qu'il a du caractère. Et il va il va démontrer que cet emprisonnement, il est formateur.
Il
va se reconstruire à force de volonté, d'intelligence, d'énergie. Il a bonne santé, quand même. Son caractère, ça, le caractère
quelque
est important.
Quelque chose malheur est bon.
C'est ça.
Ouais,
quelque
oui.
chose malheur est bon. Mmh. Et bon, il se remonte lui-même, il se reconstruit. Il va se reconstruire, car dans cette prison, dans ces prisons, Ingolstadt surtout, il y a possibilité d'avoir des livres.
C'est surtout ça qui va le sauver, je crois.
Les officiers allemands, ils sont quand même pas sauvages à ce point. Ils font venir des bouquins, des livres allemands,
voilà.
des livres français. De Gaulle a la chance de connaître la langue depuis la 6e et la 5e, donc il maîtrise, et donc il lit la presse allemande et tout, et il demande à voir de la littérature. Et la littérature allemande qui arrive, il y a les classiques, il y a Goethe, etc., sauf Heine. Il y a d'autres poètes, écrivains. Il y a aussi un officier prussien qui l'a beaucoup lu avant la guerre, le général prussien, géographe, humaniste, grand voyageur, von Bernhardi. On le connaît un peu en France, Friedrich von Bernhardi, qui est mort en 1930, écrivain militaire qui a beaucoup écrit sur l'Allemagne et la France. Et le bouquin « L'Allemagne et la prochaine guerre » et « La guerre prochaine », ça a été un vrai succès d'édition en 1913. Il a été traduit tout en France et aux États-Unis.
On ne s'est pas suffisamment méfié.
Non, et en Angleterre.
Parce que son livre était prémonitoire.
Tout à fait. Et oui, c'est un bouquin qui a eu un succès fou. Et De Gaulle le lisait en français, en allemand.
Mmh.
Et toute l'étude de von Bernhardi, qui était un officier, mais un humaniste, comme ils sont parfois en même temps. Ayant fait du latin, du grec, et toujours pareil. Ce n'était pas que des soudards.
Non, c'était ça.
Mmh.
Donc, oui, ils étaient cultivés.
Très cultivés et tout, musique, etc. Et puis, le camp d'Ingolstadt, c'est important parce que c'est un camp qui était commandé par un général humaniste aussi, bon guerrier, mais aimant en même temps la culture française, très souvent, et qui a pris contact avec l'université suisse de Lausanne pour faire venir, c'était des Suisses, par les Français, c'était faire venir des professeurs suisses pour parler, pour donner des conférences aux prisonniers français. Comme ça, tout le monde était content.
Ça leur permettait de s'instruire, puis ça les apaisait aussi un peu.
Mais oublier les conditions, oublier. Oui. Donc ça,
il y a des périodes d'abattement, donc ça les aidait beaucoup.
Et les Suisses ont tout de suite dit oui. Et donc, des professeurs de l'université de Lausanne sont montés en Bavière faire des cours à tous ces officiers français qui demandaient que ça leur a fait du bien. Mmh. Un peu tous les sujets de géographie, musique, il n'y avait pas que la guerre. Moralement, ça les a requinqués.
Oui, c'est important. On parle de tout.
C'est ça, on parle de tout. Et puis, ensuite, il a commencé à prendre beaucoup de notes, hein, les lettres, les notes, il prenait des notes. Il se souvenait aussi de ses études. Il parlait de ses études à ses compagnons d'infortune. Il leur rappelait que la culture classique était importante, le goût d'écrire. Voilà. Il demandait à ses parents de l'envoyer du papier à lettres.
Pour pouvoir écrire.
Pour pouvoir écrire, plus que du tabac. Enfin, il fumait déjà beaucoup. Mais enfin, le papier à lettres, c'était vital. Pour écrire. Des crayons aussi, des crayons en papier. Eh oui, il n'y avait pas le bic. Eh oui. Et puis, ils avaient fait des études d'allemand, tous ces officiers. Donc, ils formaient un petit cercle franco-allemand déjà, avec l'assentiment des gardiens. Mm-hmm. Voilà. C'était un peu des gentlemen, on va dire, entre guillemets.
C'est ça.
Voilà. Et puis aussi, De Gaulle leur parlait de la maîtrise des connaissances d'histoire. Donc, il faisait des conférences d'histoire en français pour ses amis officiers.
Oui.
Il y avait le colonel, il y avait le capitaine Brillat-Savarin, comme bugiste, de Montetti, beaucoup d'officiers. Et il y avait des conférences, on pouvait prendre des notes et discuter. Donc, le côté intellectuel... compenser
c'est ça.
Peu,
ah oui.
La captivité.
Voilà. L'abattement qu'il subissait quand même. Voilà.
Oui, l'abattement qu'il subissait, c'est très juste. Ne pas négliger. Et puis aussi, il se faisait des exercices pour continuer à améliorer la mémoire.
Ah, voilà.
De Gaulle leur faisait faire des exercices, récitation de déclinaison ou de conjugaison.
C'était un bon pédagogue.
C'était un bon pédagogue, oui, poésie latine. Il avait hérité ça
de son père.
De son père. Mmh. Et puis l'enseignement aussi, l'enseignement qu'il avait reçu, le retour, le goût de la mémoire, les classiques, enfin... tout ce monde-là qui leur servait beaucoup. Et ils étaient entre officiers. Et dans les camps de simples soldats, c'était différent, parce que là, ils travaillaient, les pauvres.
Oui, c'est ça.
Alors que les officiers ne travaillaient pas.
C'est pour ça que l'inactivité était pesante.
Elle
était
pesante, une activité intellectuelle. Et plus tard, De Gaulle le dira à un ecclésiastique qu'il avait connu en 1969. Hein, il est décédé en 70.
Oui.
Hein.
Oui.
Si ma vie a pu avoir une signification... Ce n'est que par la grâce de Dieu. Point. J'en suis en acte reconnaissant à mes anciens maîtres et à leurs leçons et à leur exemple. Charles de Gaulle, au révérend père de Solages, voilà, 29 décembre 1969. Reconnaissance du travail, des études, et puis aussi le père et tout. Voilà. Qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, il écrivait beaucoup parce qu'on pouvait écrire aux familles. Et là, on voit De Gaulle qui a le cafard. Qui a le cafard, lettre à sa sœur Marie-Agnès. Il évoque la tristesse de sa captivité. Lettre à ses parents, 1917. Il parle d'un chagrin qui ne se terminera qu'avec sa vie. Lettre du 1er novembre au 18. Regret indescriptible de n'avoir pas pris une meilleure part à la guerre et regret qu'il ne le quittera plus. Assez noir, là. 1er septembre 18, il se décrit comme un enterré vivant. 8 décembre 1918, la guerre est passée, à son ancien colonel, ma captivité est catastrophique pour lui, pour moi qui ai terminé sa campagne, pour celui qui a terminé sa campagne. Il dit que c'est lamentable, c'est un lamentable exil, et il affirme que le sort du prisonnier est le pire de tous pour un officier français. Bon, d'accord, il y a aussi plus tard, il y aura les camps de concentration. Mmh. Ne pas oublier, mais c'est la Seconde Guerre mondiale. On n'en est pas encore là.
Donc son retour en France à la faveur de l'armistice d'ailleurs.
Grâce à l'armistice, il va rentrer.
Il s'avère quand même douloureux le retour.
Ah ben oui, donc il repart.
Pour son orgueil surtout.
Ah oui, il repart 11 novembre, il repart le 28 novembre. Il repart le 28 novembre, Ulm, sur le Danube, qui est une très belle ville. Il passe par la Suisse. Quand il arrive à Romanshorn, sur le bord du lac de Constance, ça c'est le côté suisse, les autorités lui ont réservé une place dans un wagon de troisième classe. Mais le capitaine de Gaulle ne veut pas voyager dans un wagon de troisième classe.
C'est pas de sa classe.
Alors, il demande à un copain de lui avancer l'argent pour pouvoir voyager en première classe. Mmh. Ah, attention. Et on se retrouve à Genève et à Lyon après. Mmh. À Lyon. Et puis ensuite, après, il remonte sur Paris. Voilà. Et là, il va falloir trouver une nouvelle vie, une nouvelle existence. Vous alliez dire, Gisèle.
Je disais, il faut quand même penser que, comme toujours dans la vie d'un grand homme, il y a une femme.
Ah, ça, c'est très bien. Alors, je vous laisse allez-y, chercher la femme.
Voilà, ce romantique qui s'ignore croise en 1921 le regard magnétique d'Yvonne Vandroux, qui succombe et accepte de l'épouser au mois d'avril. Sans le savoir, elle sauve peut-être la carrière militaire d'un capitaine en proie au doute à la suite de ses captivités.
Eh oui.
Et lui donne la fougue nécessaire pour repartir au combat. Celui de ses idées, qu'il commence alors à coucher sur le papier, entamant alors une remarquable carrière d'écrivain.
Voilà, De Gaulle, c'est l'écrivain, c'est avant tout, c'est le soldat, comme il dit. Je suis un soldat, mais doublé d'un écrivain et doublé ensuite d'un grand politique. Mmh. Ce connétable, c'était ça ?
C'est ça, oui. Ah, oui.
Un connétable.
Alors, c'est ça. Donc, avant d'être l'insoumis, le rebelle, l'homme du nom, le monarque républicain, De Gaulle fut d'abord à 25 ans, au dire de ses pairs, le dernier connétable.
Le dernier connétable, c'est-à-dire un
chef suprême
des armées sous l'Ancien Régime.
Voilà.
Oui, le connétable. Oui, c'était le nom qu'on lui donnait très tôt.
Voilà. Ouais, donc c'est ses pairs qui lui donnaient ce.
Voilà.
Oui, parce qu'il avait 25 ans quand on lui donnait titre-là.
Et c'était quelqu'un, dans les camps, les capitaines, ils se tutoyaient entre eux, les capitaines, toujours. Mais on ne tutoyait pas, on n'a jamais tutoyé De Gaulle, jamais.
Parce
il y avait respect, parfois il était facile de conversation, mais il y avait de grands moments de silence, peut-être un peu hautain, puis à grande taille,
ouais,
c'est pas
mais
facile.
Ça lui permettait de penser, de réfléchir.
Il réfléchissait.
Voilà, beaucoup.
Et pour finir, un texte qu'il a écrit été-automne 1916, note d'un carnet personnel. Il faut être un homme de caractère, il dit. Le meilleur procédé pour réussir dans l'action est de savoir perpétuellement se dominer soi-même, ou mieux, c'est une condition indispensable. Il faut parler peu. Il le faut absolument. L'avantage d'être un causeur brillant ne vaut pas au centième celui d'être replié sur soi-même, même au point de vue de l'influence générale. Chez l'homme de valeur, la réflexion doit être concentrée et dans l'action, il ne faut rien dire, car le chef est celui qui ne parle pas.
Voilà.
Eh bien, nous allons nous arrêter de
On
parler
ne parle plus.
Aussi. Merci Gisèle pour tout le travail de préparation que vous avez fait. Merci à Pauline aussi à la technique. Et puis, eh bien, nous disons, voilà.
Alors, le dernier disque, c'est la dernière musique.
Ben, c'est la marche Lorraine. C'est la marche Lorraine. Parce que, eh bien, la Lorraine et puis toute l'histoire de France qui revient un petit peu.
Voilà.
Et merci et à bientôt.
À bientôt.